Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, j'ai le plaisir ce soir de rencontrer Madame Ariel Namias de Yad Vashem, de l'organisation Yad Vashem. Elle va nous préciser tout de suite pourquoi elle se trouve aujourd'hui en France et à Dijon.
Bonjour à tous. Donc je suis ici dans le cadre de mon travail de formation d'enseignants qui viennent suivre un séminaire à Yad Vashem, à l'Institut Yad Vashem à Jérusalem. Et en 2018, nous avons eu la chance donc, de connaître un enseignant dijonnais, Dimitri Vouzel, qui en fait depuis est très engagé dans des programmes et des projets pédagogiques avec ses classes de seconde, première et terminale. Et cette année, il a fait un projet qui est en lien direct avec la commémoration et un projet de commémoration de Yad Vashem, qui sont les feuilles de témoignage. Et donc, dans ce cadre-là, je suis venue aussi intervenir face à des élèves de ce projet, des élèves de géopolitique, de son établissement. Et en plus, mercredi, je rencontrerai donc aussi beaucoup d'enseignants dijonnais, une formation organisée avec le ministère de l'Éducation nationale.
Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de votre intervention au lycée, en quoi elle a consisté ?
Alors, ce matin, nous avons commencé avec la présentation de Yad Vashem. Dans le cours de Dimitri, il parle de la dimension des lieux de mémoire et des lieux qui sont des lieux de commémoration où il n'y a pas eu vraiment d'actes de mémoire sur ces lieux. Il a parlé de beaucoup de monuments. Ils ont été notamment aussi en Pologne. Il leur a juste parlé de Yad Vashem sans vraiment leur expliquer quel était ce lieu. Donc, j'ai fait vraiment une présentation d'une heure et demie sur la création, sur l'évolution de la mémoire dans la société israélienne, des lois qui ont été votées. Donc voilà, j'ai vraiment présenté aussi les quatre piliers de Yad Vashem qui sont la commémoration, la documentation, la recherche et le dernier pilier très important, c'est l'éducation et la transmission. Donc je leur ai présenté pendant une heure et demie les enjeux, les objectifs de Yad Vashem et l'évolution de sa création. Cet après-midi, je leur ai présenté une conférence sur les justes parmi les nations. Et là aussi, on a commencé d'abord avec une définition, les critères. J'ai donné plusieurs exemples d'individuels qui vont recevoir cette médaille. J'ai essayé des hommes, des femmes, un juste parmi les nations musulman, de prendre des histoires qui sont un petit peu différentes, moins connues, bien évidemment. Et puis, nous avons terminé sur le sauvetage collectif des réseaux collectifs qui n'ont pas le titre de juste parmi les nations, mais quand on parle de sauvetage, on ne peut pas ne pas aussi mentionner la dimension collective du sauvetage.
Peut-être revenir sur cette histoire et puis nous présenter physiquement le musée et les lieux qui consistent à faire Yad Vashem, un peu un parcours du lieu.
Un parcours du musée. Donc Yad Vashem, c'est vraiment une très grande institut. Tout d'abord, il y a un musée historique qui vient retracer l'histoire du début à la fin, de 1933, la montée d'Hitler au pouvoir, de façon chronologique, donc je dirais de 1933 à la libération. Ça, c'est la dimension historique du musée. Puis Yad Vashem, c'est aussi un fonds d'archives, de la documentation, un musée d'art. Nous avons la plus grande collection d'œuvres d'art de la Shoah, il y a une synagogue, il y a d'autres monuments comme la Vallée des Communautés qui vient commémorer les communautés disparues, il y a le Mémorial des Enfants qui vient commémorer les 1,5 million d'enfants qui ont été exterminés. Donc ça, c'est Yad Vashem, il y a l'Allée des Justes, bien évidemment. Donc il y a plusieurs aspects, les partisans. Chaque groupe a un lieu de commémoration, la place du ghetto, le wagon qui vient parler des déportations. Donc oui, c'est un site qui mélange histoire, mémoire, commémoration, qui a donc été établi par une loi de la Knesset, du Parlement israélien en 1953, mais qui va avec le temps évoluer au fur et à mesure aussi dans la société israélienne.
Oui, il était beaucoup question de formation des enseignants français notamment. Et quel est l'impact de votre travail actuellement sur l'évolution de l'intervention des enseignants sur cette thématique, d'une part, et d'autre part, quel est l'impact en général pour la population? Quelle est l'évolution des visites et de l'impact de votre travail?
Alors, en fait, le département des séminaires internationaux a débuté en 2005 avec des séminaires au départ seulement européens, puis après s'est élargi. Nous accueillons dans des années, on va dire, plus calmes, environ 90 séminaires du monde entier. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes arrivés à environ 8 séminaires francophones, d'accord, de France, notamment en coopération avec le comité français pour Yad Vashem, qui fait un travail extraordinaire justement de recrutement des enseignants, avec la Maison d'Isieux aussi, qui est un de nos partenaires français. Il y a environ une trentaine d'enseignants dans chaque session, donc on parle vraiment de beaucoup d'enseignants français qui viennent se former chaque année à Yad Vashem. De ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une demande continuelle pour cette formation, d'avoir vraiment un bagage intellectuel pour justement répondre aux questionnements des élèves aujourd'hui, notamment surtout avec, après le 7 octobre, bien évidemment, la montée de l'antisémitisme, les questions que les adolescents se posaient avant, ils se les posent encore plus aujourd'hui. Et il y a vraiment un besoin de formation, c'est-à-dire que les enseignants se sentent vraiment démunis et ont besoin d'informations d'abord historiques, et c'est ce que font nos séminaires. Nous amenons des experts historiens francophones. D'abord, tous nos séminaires sont en langue française, franco-israélien, mais notamment aussi de la pédagogie, c'est-à-dire que nous développons des outils pédagogiques clés en main pour aussi les enseignants. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des connaissances historiques, mais aussi de la pédagogie, de la méthodologie qui est proposée dans ces séminaires, et bien évidemment la découverte des lieux et aussi d'Israël.
On parle beaucoup de la peur des professeurs d'histoire-géographie, de l'autocensure, du fait de l'assassinat de deux professeurs il y a quelques années et d'une situation effectivement qui s'aggrave. Donc ce que vous annoncez irait plutôt au sens contraire, c'est que les professeurs se forment, réfléchissent pour agir et continuent à enseigner la Shoah notamment.
Oui. Bon, je pense qu'il y en aura aussi toujours qui ne voudront pas aborder ce sujet aussi de façon idéologique, qui ne veulent pas aborder ce sujet ou de peur, etc. Mais il y a vraiment une grande demande aussi de creuser sur cette question et d'avoir les outils pour pouvoir répondre. C'est-à-dire, quand on se sent démuni, alors on ne veut pas aborder une question. C'est sûr, moi non plus, la question de l'antisémitisme, ce n'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de gérer dans mon travail. J'étais plus dans la question de la Shoah elle-même, mais après le 7 octobre, c'est une question qu'il faut aussi se poser, donc il faut aussi se former. Quand on est formé, alors on se sent plus à l'aise de répondre à des questions qui peuvent nous perturber.
Je crois que ce matin, au lycée Charles de Gaulle de Dijon, vous avez abordé un ensemble de thèmes, mais vous avez fait irruption dans l'actualité, notamment avec la question du 7 octobre. Et comment pouvoir enseigner la Shoah après 7 octobre, après toutes les tensions et les inquiétudes qui sévissent dans notre pays?
Oui, alors c'est vrai que j'ai aussi abordé ce sujet-là, puisqu'il s'agissait aussi d'un groupe d'élèves en géopolitique. Donc la question du conflit était déjà venue en cours. Et donc l'enseignant m'a demandé d'aborder la question de la Shoah et le 7 octobre. Et en fait, je l'ai fait de la même manière que je fais mes cours sur la Shoah, c'est-à-dire que je pars d'une définition. Ce matin, quand j'ai présenté Yad Vashem, je suis partie d'une définition historique de la Shoah. Qu'on soit sous la même longueur d'onde. Qu'est-ce que la Shoah au niveau chronologique, les acteurs de cette histoire, les complices, etc. Sur le sujet du sauvetage, j'ai aussi ramené une définition du dictionnaire Larousse sur qu'est-ce qu'est le sauvetage. Et donc j'ai commencé aussi sur le 7 octobre avec présenter le 7 octobre. Qu'est-ce que le 7 octobre était? Donc une attaque, un terroriste du Hamas, etc., parler des kibboutzim, des chiffres, quelque chose de très factuel. Mmh. Et j'ai donné aussi une définition, pas de Wikipédia, mais d'une autre source, très courte, du groupe du Hamas. C'est-à-dire que les choses, tout d'un coup, prennent une dimension très claire. Il n'y a pas d'amalgame, c'est une définition d'un dictionnaire sur un groupe, sur un événement qui a été au niveau factuel et sans dimension ni personnelle sur les faits. Après, j'ai lu un poème qui s'appelait « Il faut trouver un mot nécessaire ». Et j'ai parlé aussi que dans la société israélienne, après le 7 octobre, il y a eu, au sein des survivants de cette attaque et de ce massacre du 7 octobre, des gens qui ont parlé de la Shoah. Ils ont vécu une Shoah le 7 octobre. Et ce poème parle justement, il faut trouver un autre mot. La Shoah, c'est un événement spécifique, datée, 1933, la montée d'Hitler au pouvoir, 1945, la fin, l'extermination systématique des Juifs en Europe pendant cette période-là. On ne mélange pas le pogrom de Kielce, il a eu lieu en 1946, ce n'est pas la Shoah. On ne mélange pas d'autres pogroms ou massacres ou attaques contre des lieux de culturels ou cultuels de, en dehors, en diaspora ou en Israël, ce n'est pas la Shoah. Donc j'ai commencé par là aussi, au sein de la société israélienne, le besoin de définition, de mettre les choses au clair. Ne faisons pas d'amalgame. Il n'y a pas de Shoah. Le massacre du 7 octobre n'est pas une Shoah. Et si ce qui se passe en Palestine n'est pas une Shoah non plus, n'est pas un génocide. Reprenons les termes. Donc il y a le génocide qu'il faut reprendre comme terme, il y a les crimes contre l'humanité qu'il faut reprendre comme terme. Donc j'ai commencé par des définitions. Et à partir de là, les questions étaient vraiment mises à un autre niveau. Puisqu'on avait les définitions devant nous, on ne pouvait pas dire des choses qui ne pouvaient pas être dites sur l'événement qui a été le 7 octobre. Donc les élèves, après, c'était parti sur un débat. Voilà, les élèves ont posé des questions, j'ai répondu. Ce qui était clair, c'était que je parle en tant qu'historienne de Yad Vashem, de mon travail sur la Shoah, que je ne mène pas ma propre opinion. Mais c'était des questions très pertinentes sur la société israélienne. Et on voit que les élèves lisent, écoutent. Bien évidemment, sont sur les réseaux sociaux aussi. Et des questions aussi de ce type étaient bien évidemment aussi posées.
Alors, de ce fait, comment Yad Vashem, l'institution Yad Vashem, définit le 7 octobre ?
L'institution de Yad Vashem ne définit pas le 7 octobre, justement. Il se met bien à l'écart et on parle d'un lieu qui vient commémorer la mémoire des victimes de la Shoah. Donc on ne parle pas vraiment du 7 octobre à Yad Vashem. La question qui se pose aujourd'hui à Yad Vashem, si oui, Yad Vashem doit être impliqué dans l'antisémitisme. Alors Yad Vashem est impliqué dans l'antisémitisme d'après-guerre, puisqu'on parle de la vie après, etc. Mais l'antisémitisme moderne, contemporain d'aujourd'hui, c'est une question que Yad Vashem se pose. Yad Vashem en tant qu'institut et n'est pas encore bien précis sur cette question.
Très bien, je vous remercie. J'étais donc avec Madame Ariel Namias, qui est une des représentantes de Yad Vashem, qui vient d'Israël, que nous avons eu la chance de pouvoir interviewer ce soir à la synagogue donc de Dijon, dans les locaux de la synagogue de Dijon. À bientôt, merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.